Et si nous parlions de cinéma avec nous, Nathalie?
Oui, et ça tombe bien que je parle de la maison de la radio, puisqu'il s'agit aussi du son, hein, mais là plus de la parole, et donc de l'imaginaire qui lui est attribué. C'est vrai que nos auditeurs, quand ils nous écoutent, ils doivent voilà, nous imaginer, nous donner un visage, un âge, nous représenter, voilà, imaginer nos expressions, ne pas savoir dans quel lieu on est, où se situe ni la radio, ni qu'est-ce qui nous
D'où nous
entoure.
parlons.
Voilà. Et ce que je pourrais dire, c'est que vraiment rien n'est moins cinématographique qu'un studio d'enregistrement. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une table plus ou moins ronde, quelques chaises, des micros, des murs capitonnés, quelques affiches ici de Radio Notre-Dame, la cabine avec l'ingénieur du son qui nous regarde et qui nous fait des signes. Mais tout ça pour du
Et qui
cinéma,
sourit, là, en
voilà.
l'occurrence, ouais.
Mais tout ça n'est pas très cinématographique. Alors, ce qui est absolument extraordinaire dans ce film-là, c'est que justement Nicolas Philibert en fait un vrai film. Et d'abord, il nous fait pénétrer dans un milieu auquel nous n'avons pas accès, hein, et ça, c'est une constance chez lui. Il a commencé dans son premier long métrage, La Ville Louvre, en 1990, à nous faire pénétrer dans le musée du Louvre au moment des grands travaux du Grand Louvre. C'est absolument passionnant, merveilleux, surprenant de découvrir c'est pas un microcosme, là, c'est presque c'est un monde en soi. Et il a continué, alors je vais rappeler quelques films, Le Pays des Sourds, La Moindre des Choses, qui se situe dans un asile psychiatrique. Le film qu'il a fait le plus connu, c'est Être et Avoir, qui suit la classe dans une école de village dans le Massif central. Et puis ensuite, Retour en Normandie et Nénette, qui est un portrait de la doyenne orang-outang de la ménagerie de Paris. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est curieux, qui nous fait pénétrer des milieux très différents avec son regard particulier. Qui nous révèle quoi? Surtout l'exceptionnel du quotidien de ceux qui travaillent dans ces lieux-là. Il nous en montre la diversité, l'originalité, la drôlerie, la fantaisie et surtout la magie. Alors, dans la maison de la radio, je vais peut-être d'abord commencer par dire ce qu'il ne fait pas comme film. Il ne nous montre, ne fait pas un portrait du fonctionnement de Radio France, ni de ses diverses antennes. Il ne nous fait pas visiter architecturalement le bâtiment circulaire de l'avenue du président
En plein
Kennedy.
travaux, hein, en ce moment, oui.
En plus, ce n'est pas un portrait des animateurs vedettes. Ce n'est pas non plus l'explication de comment on fait une émission radiophonique. Qu'est-ce qu'il nous montre? Ben, il nous montre ce que je vous décrivais d'ici de la radio Notre-Dame, c'est-à-dire des personnes assises dans un studio d'enregistrement, derrière leur bureau, derrière un écran d'ordinateur, le téléphone à la tempe, un casque sur les oreilles, un micro devant la bouche, plus quelques autres personnes aussi à l'extérieur du bâtiment, hein, quelques reporters qui vont interviewer des gens chez eux. Mais voilà, qu'est-ce qu'il capte et qui rend le film passionnant? C'est ce qui anime, hein, chaque personne. Ce qui anime, c'est-à-dire ce qui anime les visages avant tout, qui sont animés par la parole qu'elle prononce, les gestes, hein, que chacun fait, hein, en parlant, et mieux encore, l'animation des visages quand ils écoutent un son. Et ce film est passionnant parce qu'il nous cache souvent ceux qui parlent et nous montre ceux qui écoutent. Il nous montre aussi ceux qui parlent. Et pour ça, c'est un film aussi extrêmement physique. Et c'est extraordinaire parce qu'on se rend compte que la parole, elle est vraiment. Elle n'est pas passive, hein, elle est liée au corps. Et ça, je pourrais juste rappeler, enfin, partager ce que moi j'avais ressenti les premières fois où je suis intervenue derrière ce micro, c'est de voir combien Paul, tu bouges, tu es là.
Vous commencez à me tutoyer.
Oui, pardon, excusez-moi, Paul.
Voilà,
tout d'un coup, voilà, le geste, la présence, combien la présence physique est importante dans les échanges, les regards énormément. Et voilà, et Nicolas Philibert nous fait partager ça. Alors, je peux juste citer quelques moments tellement intenses. La beauté d'un visage d'une réalisatrice de fiction radiophonique qui écoute le texte lu par un comédien. C'est absolument captivant. Aussi, l'émotion que dégage un visage d'une toute jeune écrivain qui attend la fin de la présentation de l'animateur radio que l'on ne voit pas, qui est hors champ. Et on voit tout ce qui traverse son visage, son attente. Tout d'un coup, elle se décompose parce que ça dure tellement longtemps. Et quand est-ce que ça va venir et qu'est-ce qu'on va lui poser comme question ? Il y a aussi un moment extrêmement drôle de la gémellité de deux animateurs radiophoniques, chacun qui a un casque sur les oreilles et qui, eux, réagissent à un invité que l'on ne voit pas, avec exactement les mêmes mimiques, les mêmes sourires, les mêmes gestes au même moment. Voilà, ça, ce sont quelques instants hein, comme ça qui sont absolument passionnants, émouvants, drôlatiques, fantaisistes. Je vais aussi revenir à la forme du film. C'est absolument sans commentaire.
Hein, ça, pas de voix off.
Pas de voix off, pas d'explication. Ça, c'est pratiquement constant chez Nicolas Philibert. Il y a une structure qui est en boucle circulaire, hein, comme la maison de la radio, mais qui est celle des 24 heures d'une journée. Donc, le film commence avec les journaux d'information du matin, les journalistes au micro, l'entrelac de toutes ces voix. Il y a un rythme, un montage absolument magnifique, abouti, fluide, vraiment musical. Voilà, c'est de l'ordre de la musique. Et après, on suit vraiment toute l'évolution de la chronologie d'une journée.
Hein. Michel Brière.
Pour nos auditeurs, je crois que ce serait bien que vous disiez un petit peu mieux ce que c'est qu'un montage fluide, musical.
Alors, c'est quelque chose qui emporte.
Hein. Vous comprenez, moi, je pense qu'on ne sait pas bien ce que c'est que le montage. On n'y fait plus attention au montage.
Alors, c'est complexe. Je ne peux pas dire ça en général. Là, dans ce film-là, par exemple, pour cette première séquence, on a une succession de visages, de profils, de journalistes devant un micro qui s'enchaînent. On entend évidemment les voix, hein, mais les paroles sont coupées assez vite. C'est plutôt l'image qui est coupée assez vite, mais les paroles se prolongent hein, et apparaissent déjà. Voilà, il y a un chevauchement, un entrelac. C'est pour ça que le mot entrelac est le plus juste. Ça, c'est pour le début du film. Parce qu'ensuite, chaque séquence, c'est en cela qu'aussi que c'est fluide et qu'on peut prendre le temps de goûter à chacun des moments, parce que c'est très kaléidoscopique. On y montre tout l'éventail de plusieurs émissions tout au long de la journée, donc du matin jusqu'au soir, pendant la nuit jusqu'au matin le lendemain. Mais chaque séquence garde à son propre rythme, se déploie. C'est-à-dire que la durée est ressentie, mais c'est fluide parce que si c'est coupé juste avant que l'on commence à s'installer. Et ça, il le décrit bien, c'est qu'il s'est rendu compte qu'en tournant, parce qu'il a passé, je crois, 6 mois dans les lieux, il s'est rendu compte que son plus grand ennemi, c'était le contenu. Et que les émissions les plus passionnantes n'étaient pas forcément les plus intéressantes pour le film. Que c'était un piège. Parce que vraiment, les critères qu'il a pris, c'est vraiment la présence. Et lui, il le dit très bien, là, je vais le citer. Il dit, j'ai choisi d'écriture en apparence plus futile, mais plus cinématographique. Les visages, les regards, les intonations, la fluidité, les accros d'une parole, le timbre et la sensualité d'une voix, le corps qui la porte, l'accent d'un invité, la gestuelle d'un animateur, l'atmosphère d'un studio. Et c'est vraiment ça qu'il arrive à nous rendre compte dans ce film. Et il ne nous montre pas les ficelles du tout de comment
ça fonctionne.
Mais vraiment des instants, hein, des instants d'émotion. Par exemple.
Mais alors, il n'y a pas d'histoire.
Il y a non, il n'y a pas d'histoire.
Il
n'y
a pas un personnage qu'on suit du début à la fin. C'est 24 heures.
Il y a 24 heures de la vie.
Voilà,
de radio.
Mais il y a des personnages qui reviennent de manière récurrente. Mmh. Hein, par exemple, il y a bon, pour l'information, il y a une femme responsable des dépêches de l'information qui lit sur son écran tous les faits divers qui arrivent, et le flot de catastrophes qui circule dans le monde, et elle commente ça avec une santé, un humour absolument intarissable. On voit par exemple une journaliste aveugle qui répare ses textes en braille et qui revient plusieurs fois. On a aussi cette réalisatrice de fiction radiophonique qui revient très régulièrement. C'est absolument enchanteur. Alors, il y a aussi des parties musicales, hein, l'enregistrement de chanteuses lyriques du chœur de Radio France.
Il ne faut pas oublier que la Maison de la Radio, c'est aussi un orchestre, un chœur.
Voilà, il y a un groupe de rap, il y a une chanteuse folk, celle de le visage qui est sur l'affiche du film, un chanteur espagnol, et là, il prend le temps, vraiment de chaque fois du morceau de la musique, aussi, non pas seulement pour nous faire écouter la musique, mais pour nous montrer la force de l'interprétation. Là aussi, la présence avant tout. Et alors, ce qui est absolument étrange, alors oui, quand même, là, c'est vraiment toujours à l'intérieur de la maison de la radio, mais il y a des moments à l'extérieur.
Donc, il y a des extérieurs, comme
voilà,
on dit.
Voilà, il y a des pauses, des repères temporels qui nous sont donnés par des plans extérieurs, point de vue aérien sur le bâtiment à l'extérieur par rapport à la scène. La circulation simplement automobile autour de la maison de la radio, mais qui sont comme des postes un peu chronologiques, le matin, le midi, la nuit, le crépuscule, la nouvelle aube qui réintervient. Et alors, il y a aussi quelque chose de très particulier, c'est qu'il n'identifie aucune des personnes. C'est pour ça d'ailleurs que moi je donne aucun nom, pour respecter la cohérence du film. Et c'est grâce aussi à l'écoute qu'on peut apprendre l'identité soit de l'invité ou de l'animateur ou du présentateur. Mais ce n'est pas systématique. Donc là aussi, c'est tout à fait cohérent. C'est l'écoute qui est privilégiée. Et surtout, ça, c'est une audace parce que c'est très déroutant. Hein. On a envie, on est curieux, on voudrait bien savoir qui c'est. Surtout que dans les documentaires, on met systématiquement l'identité de la personne en sous-titre, avec un bandeau. Moi-même, je souligne toujours, il faut toujours donner l'identité des gens qui interviennent. Et là, absolument pas. Évidemment, au générique de fin, on a le nom de tout le monde, mais on restera sur sa fin. Si on ne connaît pas l'émission ni le nom du présentateur, on ne le saura pas. Et ça participe justement à ce mystère qu'il veut absolument garder dans son film. Donc voilà, c'est vraiment une expérience, c'est une découverte. Par exemple, vous verrez la source du petit bruit du jeu des 1000 francs, le petit ding-ding là qu'on entend depuis des années et des années. Là, vous verrez qu'est-ce qui provoque ce bruit-là, par exemple. Je finirai sur une citation encore de Nicolas Philibert. Il dit de son film « La radio est un lieu ouvert sur le monde, un réceptacle du bruit des bruits du monde. » Et c'est vrai que son film est lui-même un réceptacle des présences, des visages, des voix, des regards, des gestes de ceux qui font vivre la radio passionnément, comme nous d'ailleurs ici ce soir.